l'une des conclusions du chapitre précédent est que les marchés concurrentiels de commodités, c'est-à-dire de produits standardisés, non différenciés, c'est l'enfer, aussi bien pour le producteur que pour les consommateurs. Les entreprises cherchent donc par tous les moyens à différencier leurs produits dans le système productif en aval des commodités, donc dans toute l'industrie manufacturière et les services. Un premier type de différenciation concerne les caractéristiques techniques, fonctionnelles, du produit, caractéristiques qui sont en théorie mesurables. Par exemple, la puissance d'une automobile, sa couleur, sa consommation au 100 km, son comportement en crash et son niveau de sécurité. On peut distinguer deux types de différenciation des caractéristiques des produits. La différenciation verticale, où un produit présente des qualités supérieures à un autre sur la plupart de ses caractéristiques. Et la différenciation horizontale, où les produits varient selon leurs caractéristiques, mais au même niveau général de qualité. On parlera par exemple d'une différenciation horizontale entre les automobiles d'entrée de gamme de différentes marques et d'une différenciation verticale entre les véhicules d'entrée de gamme et les grosses berlines de luxe. Un bon critère pratique pour savoir de quel type de différenciation il s'agit est le suivant. Si des produits différenciés horizontalement sont proposés au même prix, par exemple la Citroën C1, la Peugeot 101, la Toyota Aygo, alors la demande se répartira à peu près entre les trois. Si des produits différenciés verticalement étaient proposés au même prix, par exemple la Citroën 101 et la DS de luxe, toute la demande, à quelques exceptions près, dont ceux qui auraient de gros problèmes de garage ou qui tiendraient à passer entièrement inaperçus, toute la demande se porterait dans ce cas sur le haut de gamme, la DS, si elle était vendue au même prix que la 101. Les modèles économiques de différenciation produit montrent que la diversification horizontale et verticale accroît sans aucun doute l'utilité des consommateurs. Ils ont plus de choix et ils peuvent ainsi rapprocher leur panier de consommation des produits qui présentent pour eux les caractéristiques idéales. Ford avait dit, paraît-il, avec notre nouvelle Ford T, nos clients ont un grand choix de couleurs. C'est une diversification horizontale. Du moment qu'elle est noire, ajoutait-il. Au même moment, Sloan, chez General Motors, avait compris qu'il fallait différencier les voitures, même de manière cosmétique et à grands coups de chrome, de peinture rose bonbon ou vert pomme, ou les deux. C'est Sloan qui avait raison, et General Motors a gagné des parts de marché sur Ford. Les producteurs offrent donc un portefeuille de produits diversifiés. Chacun de ces produits est en vérité un petit monopole, car chaque produit est unique et n'a pas au sens strict de concurrent. Mais c'est un monopole très étroitement surveillé par des produits proches, au sens où ils ont des caractéristiques proches des siennes. Si son prix augmente, ou si celui des produits proches diminue, les produits proches gagnent rapidement des parts de marché. En jargon économique, on dit que la demande adressée à un produit particulier est très élastique à son prix et au prix de ses substituts proches. On parle alors de concurrence monopolistique, une concurrence entre monopoles, mais entre monopoles locaux dans le vaste territoire des produits différenciés. Cette métaphore géographique territoire convient, puisqu'on peut définir des distances dans l'espace des caractéristiques des produits. Un exemple de différenciation verticale est la segmentation du marché par les compagnies aériennes. Un dirigeant d'une compagnie aérienne ne peut qu'observer avec gourmandise la courbe de demande, par exemple pour un voyage Paris-New York que lui transmettent ses services de marketing. Ce que dit cette courbe, c'est que les consommateurs sont prêts à payer ce voyage entre Paris et New York de disons 3 000 à 300 euros. Alors que le coût de transport d'un passager est pratiquement le même. Comment capter ces consentements à payer très élevés? Telle est la question. La segmentation du marché, et donc la différenciation des produits, consiste ici à offrir des places de première, des places de classe affaires, de classe économique, des places du dernier moment, et enfin des places low cost, généralement dans une filiale. Le produit de base est le même, c'est un voyage entre Paris et New York en 7 heures de vol. Mais il est différencié par des services complémentaires associés. Espace occupé dans la cabine, type de siège, qualité du service à bord et en aéroport. On passe par la fast track où on s'entasse avec le bétail. Poids des bagages autorisés, facilité de l'annulation. Mais dans le cas d'une place de première ou en classe affaires, par exemple, le surcoût de ces services différenciants est largement inférieur au consentement à payer du consommateur pour eux. Et le profit par place est par conséquent bien plus élevé qu'en classe économique, a fortiori dans la vente d'une place de classe économique de dernier moment pour remplir l'avion. En théorie d'ailleurs, si elle ne craignait pas ainsi pour son image de marque, dont nous allons parler dans un instant, une compagnie aérienne peut se contenter de vendre la dernière place juste un peu au-dessus de son coût marginal, c'est-à-dire le coût essentiellement en carburant d'un voyageur supplémentaire. Et c'est très peu de choses en vérité, et c'est ce qui explique les billets Paris-Berlin à 50 euros ou moins. Notons un point important pour ses implications normatives, mais aussi réglementaires. La concurrence monopolistique par la différenciation des produits peut laminer les surprofits aussi bien que la concurrence pure dans les commodités. La différence est qu'un produit très innovant peut prendre de l'avance sur les autres. Au début, avant d'être imité, il n'a que des concurrents lointains et ses profits de monopole local sont très confortables. Cela constitue une incitation importante à innover, stimule le progrès technique, accélère l'obsolescence des produits anciens, ce qui, soit dit en passant, n'est pas toujours une bonne chose pour l'environnement, et finalement entretient la dynamique de la différenciation. Il est cependant des cas, les molécules pharmaceutiques par exemple, où la durée du monopole temporaire lucratif que donne l'innovation est très réduite. En effet, il est très facile d'imiter une nouvelle molécule pharmaceutique. Voici une nouvelle imperfection de marché. Cette possibilité de pillage de l'innovation désincite à l'innovation. Nous verrons comment l'État peut tenter de corriger cette imperfection par un système de brevets ou toute autre forme de propriété intellectuelle. Mais revenons au monopole temporaire que donne la différenciation produit. Si la différenciation est fondée sur des caractéristiques techniques et fonctionnelles des biens et services, elle est, sauf en cas de brevet, facile à imiter et le monopole par conséquent s'érode vite. C'est la raison pour laquelle des entreprises cherchent à utiliser un second type de différenciation qui est d'attacher à leurs produits une image de marque. Une caractéristique, mais cette fois immatérielle, un ensemble de représentations qui conduit les consommateurs à le payer plus cher que des produits d'autres marques. Pour un grand nombre de produits manufacturés aujourd'hui ou de services, y compris les produits manufacturés de masse comme les ordinateurs, les smartphones, l'image de marque constitue pour certaines marques l'essentiel des profits. Et son entretien justifie d'énormes dépenses de publicité. Au-delà des modèles abstraits de concurrence du chapitre 17, voici que se précise encore le fonctionnement réel des marchés et des formes de concurrence et le comportement réel des producteurs. On peut, au stade où nous en sommes, diviser le monde des firmes et des marchés en deux. D'une part, les producteurs de commodités. Les marchés sont fluctuants et les innovations ne visent qu'à abaisser les coûts. Cela s'obtient souvent par des économies d'échelle, d'où une tendance de ces marchés de commodités à la concentration des entreprises et parfois à l'horizon des situations d'oligopole, dont certains sont des oligopoles collusifs, comme dans le pétrole. Oligopoles qui d'ailleurs sont susceptibles de tempérer les fluctuations importantes des prix que connaissent les marchés concurrentiels de commodités. Et d'autre part, les producteurs de biens et services différenciés en concurrence monopolistique sur une multitude de marchés aux produits proches, facilement substituables, et pour qui la concurrence passe essentiellement par les innovations produits et la construction d'images de marque. Les prix, en revanche, sont relativement stables, en dehors des périodes de soldes et de promotion. Mais ceci ne nous dit encore rien de la façon dont les firmes définissent leur périmètre d'activité, s'organisent à l'intérieur et nouent entre elles à l'extérieur des relations de sous-traitance, de distribution, des coopérations. Autrement dit, cela ne nous dit encore rien de la façon dont les firmes combinent les différentes formes de coordination, le marché, les marchés, mais aussi les hiérarchies.